Bienvenue à Randardesca, archéosite d'Ardèche. Je vais vous préciser 2-3 petites choses en préambule. Déjà, Randardesca est un projet associatif. C'est-à-dire que c'est une bande de passionnés d'histoire vivante, d'archéologie expérimentale, qui ont décidé un beau jour de créer ce lieu pour vulgariser les connaissances en archéologie et en histoire auprès d'un plus grand public. Quand je dis que c'est une association, ça veut dire que toutes les personnes que vous allez voir sur ce site, y compris moi, sont bénévoles. On n'a pas de salariés, on a essayé, mais même si on commence à avoir de plus en plus de monde qui vient visiter notre site, on n'a pas encore les reins assez solides pour pouvoir salarier des gens. Et finalement, le bénévolat et cette volonté de faire des choses, même au niveau culturel, on le voit au quotidien, ça crée une dynamique qui est très très intéressante. Ça permet de percevoir le monde d'une autre manière.
À Saint-Alban-Auriol, hors village, il y a non seulement de nombreux dolmens à découvrir le long des sentiers balisés et dans la garrigue, mais il y a aussi depuis bientôt 10 ans un site qui, chaque année, s'enrichit de nouveautés d'il y a plus de 2000 ans. C'est l'archéosite Randardesca qui propose tout au long de cet été une plongée dans un village gaulois en construction. Après la visite guidée avec Benjamin, c'est Guillaume qui me reçoit et qui nous rappelle ce qu'est un archéosite.
Un archéosite, c'est un lieu où on va reconstruire des ateliers et des habitats de différentes périodes de l'histoire. Et l'intérêt, c'est de pouvoir vulgariser cette histoire et cette archéologie auprès de nos visiteurs. Donc ça peut être dans le cadre de visites guidées, comme on fait notamment l'été, mais c'est aussi évidemment le cas dans le cadre des ateliers qu'on fait avec les scolaires, où on leur présente des petites visites guidées et des ateliers d'artisanat. Donc il y a une quinzaine d'archéosites qui existent à peu près en France, mais il y en a très peu qui font comme nous ici ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Donc c'est-à-dire pour construire les bâtiments ici, on ne fait pas venir des entreprises qu'on paye ou autre chose, on le fait nous-mêmes dans le cadre de chantiers collectifs avec des bénévoles. On a 150 bénévoles qui viennent chaque année, et l'archéologie expérimentale, c'est qu'on utilise les outils et les techniques de l'époque pour reconstruire ces bâtiments. Donc forcément ça prend un peu plus de temps, on a une autre approche du temps, et ça permet de vraiment réussir à comprendre comment ils étaient faits, comment ils tenaient, comment on les entretient, comment ils se détruisent, etc. etc.
Un archéosite, ça n'a pas une période particulière. Ça peut être une période très lointaine, beaucoup plus proche. Ici, vous avez choisi à peu près le temps des Gaulois.
Alors, pour être plus précis, donc, tu as raison, hein, il n'y a pas une période précise pour les archéosites. Il peut y avoir des lieux sur la préhistoire, mais même sur le 17 ou 18e siècle. Nous, ici, on a choisi de travailler sur la période de l'Antiquité, plus précisément de l'âge du fer, et comme tu dis, la période gauloise, ou plus précisément la période celtique. Nous, on travaille du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ, et on est ici sur le territoire des Helviens, donc les Celtes qui habitaient en Sud-Ardèche.
Expérimental, ça veut dire que même quand on se balade, on peut voir des personnes qui sont en pleine construction ici.
Alors bien sûr, tout à fait. Dès qu'on est ouvert au public, nous on est en même temps en chantier. Notre intérêt, c'est d'avoir un lieu assez vivant. Donc les visiteurs qui viennent ici ont beau avoir une visite guidée qui fait une bonne heure et demie, mais ça n'empêche que pendant leur visite, ils voient des gens, donc soit des animateurs de l'équipe, soit des bénévoles qui viennent et qui sont en chantier, donc qui sont costumés sur le village et qui vont utiliser ces outils, faire les constructions, faire du clayonnage, faire des murs en pierre, des murs en torchis, écarrir des poutres, faire des toitures. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, pour les visiteurs, voir comment ça se faisait et ces gestes. Et puis pour les bénévoles, d'apprendre et de comprendre comment on utilisait tel ou tel outil.
Ça veut dire quand même que ceux qui ont créé ça, je crois que vous étiez 4 au départ, vous aviez quand même quelques connaissances sur ce domaine. Il faut quand même qu'il y ait des piliers au sein de cette structure.
On en a pu dire qu'ils sont artisans, donc des artisans pareil spécialisés sur ce domaine de l'histoire, donc que ce soit le travail du verre avec l'association Artisans d'Histoire ou le travail de la lutherie avec Benjamin Margoton, mais les autres aussi de l'équipe avaient beaucoup de liens avec la médiation culturelle, l'archéologie et ce genre de pratiques. Maintenant on a gonflé un petit peu le CA, donc on a des gens aussi qui viennent de la médiation, de l'archéologie, mais qui viennent aussi de tas d'autres milieux. On a des plaquistes, des électriciens, des bibliothécaires qui viennent pour découvrir et qui apprennent. Donc c'est sûr qu'il y a un petit côté passion qui est là. Et ensuite, pour renforcer un petit peu ces sources, on a un comité scientifique d'archéologues qui existe, donc notamment sur la période de l'âge du fer, avec des archéologues locaux et des archéologues aussi au niveau national. Donc dès qu'on a un nouveau projet ou des choses qu'on veut faire, on commence à rédiger des documents, des protocoles qu'on peut leur envoyer, et eux derrière ils nous donnent leurs avis, ils nous valident ou pas, et puis on fait en fonction de ce qu'ils nous disent pour les constructions.
Là, ça doit faire à peu près peut-être 8-9 ans que vous êtes installé ici. Ça avance bien. Enfin, est-ce que c'est dans vos... Tu disais tout à l'heure que vous avez une autre idée du temps, mais pour vous, ça avance comme c'était prévu, ou est-ce que vous avez du retard, ou est-ce que vous êtes en avance finalement?
Alors c'est une bonne question, mais effectivement là c'est notre 8e année, on est très loin des projets qu'on avait au début, parce que au premier chantier qu'on avait sur le site, ben, on s'imaginait être autonome au bout de 3 ans, avoir plus de 20 000 visiteurs, des salariés, etc. etc. Et ben, comme tu dis Laurent, cette approche du temps nous a fait nous réadapter, et ben, aujourd'hui c'est notre 8e année, on n'a toujours pas de salariés, tout le monde fonctionne avec des bénévoles. Et bah forcément on a moins avancé que prévu parce qu'on a été moins épaulé. On n'est pas vraiment épaulé par les institutions locales, que ce soit département, région ou autre chose, alors que ça serait normal de soutenir des sites culturels de ce type là. Donc les seules rentrées financières qu'on va avoir, ça sera avec les entrées, donc les visiteurs qui payent. Donc évidemment l'entrée est pas trop chère parce que c'est encore notre démarche d'avoir un accès à la culture pour tous et toutes. Donc non, on est en retard sur ce qu'on voulait au début, mais en final, on n'est pas si mal parce que chaque année, ça avance. On a des visiteurs qui reviennent nous voir chaque année et qui nous disent « Oh là là, vous avez avancé encore comme des dingues cette année ». Donc c'est vrai que nous, on a la tête dedans, on s'en rend pas bien compte, mais il paraît qu'on avance. Chaque année, on a de nouveaux bâtiments, des aménagements sur le site, et on a appris en fait à se fixer des objectifs chaque année qui sont adaptables au fil de l'année.
Pour mener à bien la construction de ce village, ce qui prend, nous l'avons entendu, plus de temps qu'imaginé, Randa Ardesca, l'archéocyte d'Ardèche, fait appel à des bénévoles, mais travaille également avec des chantiers que l'on pourrait qualifier d'insertion. Retrouvons Guillaume.
On a 3 chantiers qui sont organisés chaque année. Donc on a 2 semaines en avril, 2 mois en été et 2 semaines en octobre, juste avant notre festival. Donc là, c'est les chantiers qu'on organise. Donc on a hommes, femmes, jeunes, vieux, qui a envie vient. On limite à 25 personnes par jour. Mais après, il nous arrive aussi de temps en temps faire des chantiers hors ouverture et hors chantier avec des groupes précis, que ce soit des groupes de jeunes en CER, donc les centres éducatifs renforcés, ou des jeunes en PJJ. Et tout ce genre de choses. Donc là, c'est une dynamique qu'on aime bien parce que c'est des gens aussi qui ont besoin de voir autre chose, de voir d'autres fonctionnements, de sortir un petit peu leur tête de leur trou. Et jusqu'à présent, ça se passe très très bien, donc on continue.
La période printanière qui vient de nous arriver, là, cette espèce de confinement vous a aussi obligé, je suppose, à reporter vos stages d'avril, ou vous avez quand même pu les mettre en place ?
Comme beaucoup de sites et de gens, nous aussi on a eu beaucoup de problèmes avec le confinement et le Covid. Donc on a annulé notre chantier d'avril, on a annulé nos ouvertures d'avril. D'habitude en avril, mai, juin, c'est les périodes où on a beaucoup de scolaires, donc on a annulé tous les scolaires forcément. Donc on a aussi nous beaucoup de pertes et puis on a moins d'avancées sur le site. Mais je pense qu'on n'est pas les pires parce que encore une fois, nous on est tous bénévoles, il n'y a pas vraiment d'emploi en jeu. Donc on a même pu se permettre de faire des dons à certaines structures dans le coin qui avaient plus de soucis que nous. Forcément, on est en retard sur certaines choses, mais c'est comme ça, il faut bien s'adapter.
Alors maintenant, tout à l'heure on parlait des projets justement, là tout à l'heure j'étais avec Benjamin et une bonne trentaine de visiteurs déjà ce matin devant la maison du chef. On a vu que la forge est en projet, il y en a encore d'autres choses qui sont vraiment essentielles pour que vraiment vous vous dites ça y est, là on a franchi une étape.
Oui, il y a encore beaucoup de choses. Oui, il y a encore beaucoup de choses. Je pense qu'une étape sera franchie quand on aura, à mon avis, une dizaine d'habitats et d'ateliers dans le village dans quelques années et qu'on pourra commencer à faire la fortification du village. ça risque d'être je pense vraiment une étape qui va se passer. Les villages à l'âge du fer étaient fortifiés, donc on a des vestiges archéologiques dans le secteur, notamment de fortifications tout en pierre sèche, 4 mètres de base au sol, sur 4 mètres de haut, sur plusieurs dizaines de mètres. Et dans quelques années, c'est un projet qu'on va lancer quand le village aura vraiment une forme de village et qu'on aura des ateliers pour travailler, qu'on aura des habitats pour loger aussi les bénévoles. On risque d'attaquer cette fortification qui risque de nous prendre quelques années, mais c'est sûr que quand elle sera faite, ça sera un tournant assez impressionnant qui sera fait. Ouais.
Cette saison, vous avez de nouveau des nocturnes, c'est ça? Vous faites des nocturnes chaque jeudi soir, qu'est-ce qui se passe?
Alors tout à fait, on a commencé à tester l'année dernière une visite nocturne le jeudi, ce qu'on appelle une visite onirique. Donc là on a récidivé cette année parce qu'on a trouvé ça assez chouette et les visiteurs ont beaucoup aimé. Donc sur l'idée, il y a une visite spéciale, un petit peu plus de mise en immersion, on va dire, sans vous dévoiler tous les secrets de la visite. Donc il y a une visite qui fait une petite heure et après ça se finit avec une heure de compte. Donc on a un compteur local, Eric Derien, qui est sur Saint-Paul-le-Jeune, qui nous présente l'Iliade, donc les aventures d'Homère, donc plutôt sur la Grèce, qui est aussi intéressante pour nous, hein, parce que les Elviens, dans l'Antiquité, sur notre période, avaient énormément de contacts avec les Grecs de Massalia, donc de Marseille. Et du coup, là, ce conte est vraiment assez intéressant.
D'autres choses, il y a un livret aussi pour les enfants, parce que souvent dans les visites on a toujours peur que les enfants s'ennuient, mais je peux vous rassurer, ici ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Je les ai trouvés même durant la visite très intéressés, répondant aux questions du guide et en même temps lui posant des questions, d'ailleurs toujours intéressantes. Mais ils peuvent aussi trouver un petit jeu, c'est ça, un petit livret jeu.
On sait que la visite qu'on a ici est très dense. Il y a beaucoup d'informations qui sont exposées pendant une heure et demie. Et qu'effectivement, pour les plus jeunes, ça peut être un peu compliqué. Après, dès qu'il y a des enfants de 8-10 ans qui sont un minimum intéressés, bon, ils suivent la visite sans souci. Et on a un livret jeu avec des tas de petits jeux, de questions qui sont dedans. Je t'avoue qu'on avait prévu, parce qu'on n'oublie pas les enfants, on avait prévu cette année aussi d'aménager des petits espaces jeux sur différents endroits du site, notamment à l'accueil, des jeux en bois, des choses comme ça. Mais bah, avec les événements des mois derniers, ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu faire cette année. Donc ça sera pour l'année prochaine.
Toutefois, n'attendez pas l'an prochain pour visiter l'archéosite d'Ardèche, Randa Ardesca, à Saint-Alban-Auriol. Faites-le dès cet été. Il propose chaque jour, hors samedi et dimanche, des visites guidées à 10h30, 15h et 16h. Et vous l'avez entendu, des nocturnes chaque jeudi à partir de 21h. Tarif des visites guidées 6 à 7 euros, c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Tarif des nocturnes du jeudi, 8 euros. Dans la mesure du possible, pensez à covoiturer et arriver 10 à 15 minutes avant le départ des visites. Info complémentaire au www.randaardesca.fr.